Alors, même si aujourd'hui, et vous le savez, il n'existe pas encore de traitement curatif, la recherche progresse et de nouveaux traitements sont proposés. Faisons point avec le docteur Claire Boutolot-Bretonnier, neurologue qui travaille au centre de mémoire du CHU de Nantes. Bonjour Claire. Merci Bonjour. D'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la responsable du Centre Mémoire de Recherche du CHU de Nantes et les nouvelles sont plutôt encourageantes. Vous allez nous expliquer tout ça. Bonne conférence.
Merci et je tiens en premier chef à remercier à la Fondation Recherche Alzheimer de nous permettre de nous retrouver effectivement lors de ces après-midi qui sont maintenant... Vraiment, extrêmement importante dans l'agenda de l'année. Un petit mot d'actualité thérapeutique. Donc, on a une actualité qui est un peu en demi-teinte, on va dire, mais on va voir qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de sources d'espoir. Donc, en ce qui concerne mes déclarations d'intérêt, j'ai des liens d'intérêt avec de très nombreux laboratoires. Le CHU de Nantes, hein, donc le service de recherche que je dirige pour la mémoire au sein du CHU, a des liens d'intérêt avec la plupart des laboratoires pharmaceutiques qui ont des molécules en cours de développement. Et donc, en ce moment, c'est tous les laboratoires avec lesquels on travaille, puisqu'il y a un essai en cours avec tous ces laboratoires à Nantes. Donc, un petit mot de ce qui se fait cette année. Cette année, vous voyez, il y a 127 molécules qui sont en cours d'essai thérapeutique dans le monde. Il y a eu une évaluation, vous voyez, on est un peu plus de 50 000 personnes qui participent à un essai thérapeutique et 250 en France. Donc, quand on parle 1,2 million personnes atteintes de la maladie et 250 personnes participant à des essais thérapeutiques, on voit bien toute la complexité des essais thérapeutiques dans cette pathologie qui est très particulière. On n'imagine pas des pathologies comme la cancérologie ou l'infectiologie avec notamment du VIH, etc. Avoir aussi peu de personnes incluses dans des essais thérapeutiques. Hein, donc c'est très compliqué pour plein de raisons. Une raison, Laura Couloum qui va suivre, voilà, c'est le frein au diagnostic, hein, le fait que, voilà, et puis quand on est diagnostiqué, on n'a pas forcément envie de s'embêter avec la participation à l'essai thérapeutique. Et puis, il y a d'autres biais qui sont aussi les critères d'inclusion très stricts des essais, du fait justement de prémunir la survenue d'effets indésirables, et on va en reparler aussi. Donc, il y a plein de biais qui font qu'il y a peu de patients inclus et incluables dans des essais thérapeutiques en France, mais dans le monde. Hein, vous voyez, 50 000 dans le monde, ça fait finalement pas un si petit chiffre en France. Donc, parmi ces 127 molécules, on a la majorité de molécules actuellement qui sont véritablement à viser de modifier le cours évolutif de la maladie, hein, ce qu'on appelle les disease modifying, pour vraiment tenter de influer sur le cours évolutif de cette agrégation de protéines qui survient lorsque la maladie d'Alzheimer se met en place dans le cerveau. Et puis, il y a 24% de molécules plus symptomatiques, hein, pour sur l'attention, la concentration, hein, comme les médicaments qui sont en pharmacie actuellement, déremboursés effectivement, comme ça vient d'être dit en 2018, hélas, au grand hélas, c'est remboursé partout ailleurs pour les pays qui remboursent. Mais il y a encore d'autres molécules qui sont à l'essai pour ce type d'objectifs thérapeutiques. Et puis, il y a aussi tout un champ d'essais pour la maîtrise des troubles du comportement. Parce qu'on sait que la difficulté comportementale dans les pathologies plus évoluées, et toutes les pathologies apparentées sont complexes à prendre en charge. Et du coup, il y a un vrai besoin de molécules fiable, efficace et surtout peu délétère, hein, ce qui est un peu difficile actuellement. Alors, un petit aperçu de ce qu'on appelle le pipeline, hein, des essais, enfin des molécules en cours d'essais dans le monde. Donc, c'est un petit peu illisible, hein, mais pour dire, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'études. Hein, donc, je vous rappelle brièvement, il y a les études de phase 1 qui tentent de regarder comment se comporte une molécule chez un volontaire sain. Il y a les essais de phase 2 qui, là, on prend un certain nombre de personnes qui ont la maladie, on regarde quelle est la bonne dose, quelle est l'efficacité et la sécurité du produit chez les patients. Puis si l'étude de phase 2 est intéressante, a des résultats prometteurs, à ce moment-là, on passe en phase 3, où là, on a beaucoup plus de patients. Donc, il y a, comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'études avec les molécules en cours Donc c'est très intéressant, hein, soit des anticorps en perfusion, soit des petites molécules qu'on appelle des comprimés, des choses qui influent sur la maladie, des choses qui influent sur les symptômes. Alors je ne vais pas pouvoir, vous avez bien compris, détailler, et ce serait un catalogue assez inintéressant, l'ensemble des pistes, mais simplement un petit focus pour montrer qu'on va parler des anti-amyloïdes, hein, qui font l'objet de beaucoup d'attention, et des anti-tau. Mais il y a d'autres pistes, hein, qui ont plein d'autres pistes, mais donc on va parler de 3-4. Donc il y a ce qu'on appelle l'immunomodulation, c'est-à-dire que les neurones, on parle beaucoup des neurones, hein, et la plasticité synaptique, du fait que deux neurones discutent entre eux, mais on ne parle pas souvent de la maison des neurones. Les neurones, ils vivent dans un environnement particulier, et donc le fait d'avoir un environnement très favorable, ça permet aux neurones, bah, de vivre plus longtemps. Donc il y a pas mal d'essais actuels qui vraiment visent à s'attaquer à ce qu'on appelle la microglie. La microglie, c'est tout l'environnement des neurones. Et donc, il y a de l'immunomodulation pour stimuler la sécrétion de facteurs qui vont faire que la microglie, elle se porte mieux. Il y a aussi des essais sur la plasticité synaptique, hein, pour essayer de faire en sorte que les neurones discutent mieux entre eux. Il y en a un notamment qui est à l'étude dans le monde, et notamment à Nantes, c'est le sémaglutide. Hein, le sémaglutide, on entend beaucoup parler parce que c'est le médicament qui fait maigrir. Hein. Tout le monde en parle, là, c'est un truc pour le diabète, ça fait maigrir. Et donc, c'est aussi à l'essai. Pour la maladie d'Alzheimer et les symptômes, attention, etc. Il y a tout un tas de molécules à l'essai, à visée anti-excitotoxique. Hein. C'est pas c'est que les neurones, dans un certain nombre de cas, avec tout un tas de facteurs qui va aller engranger ce type de phénomène, il y a des phénomènes d'excitotoxicité qui vont conduire à la mort neuronale précoce. Et donc, il y a toute une panoplie d'essais thérapeutiques actuellement sur le fait d'être neuroprotecteur, anti-excitotoxique, etc. Et puis, il y a une autre piste, très prometteuse aussi, qui est l'inflammation. Donc, il y a une sorte d'inflammation du cerveau au moment où se constitue la maladie. Et donc, on a, hein, tout un tas d'inhibiteurs de cette inflammation qui sont en cours de développement. Alors, pour ceux qui viennent depuis 7 ans ici, vous connaissez tous par cœur ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Donc la cascade amyloïde, c'est l'hypothèse qui prévaut actuellement, hein, de la genèse de la maladie d'Alzheimer. Alors elle a ses limites, c'est en l'état actuel de nos connaissances, mais ça permet de poser un peu des bases, et puis il y a des choses qui semblent assez certaines. C'est que donc on a une grosse protéine, APP, je répète rapidement, hein, on a une grosse protéine APP qui va être découpée en petits segments et qui va conduire à la production du fameux peptide amyloïde qui est constitutif de la dite plaque amyloïde. Et puis, à un moment donné, dans la dégradation de cette protéine APP en peptide amyloïde, on va avoir une stimulation de la voie de la phosphorylation de la protéine tau. C'est-à-dire la protéine tau, c'est une autre protéine, et quand elle est hyper phosphorylée, elle s'agrège, elle forme des petits tas, et elle va aller parasiter le cerveau en même temps que la plaque amyloïde, et les deux associés constituent la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a toujours bien entendu les deux grandes voies de recherche, hein, en plus de tout ce que je viens de vous dire juste avant, on a les antitaux et les anti-amyloïdes. Donc là, est représentée sur cette photo une dégénérescence neurofibrillaire. Hein, donc c'est tout un tas de protéines tau toutes agrégées dans le neurone. Et donc on a plein de types de voies d'action sur cette agrégation de tau. Des thérapies géniques, hein, donc, qui vont aller sur les gènes qui sont producteurs de la protéine tau, aller influer sur cette production de tau et donc diminuer sa production. Des petites molécules qui inhibent des enzymes qui vont aller abîmer la protéine tau. Des petites molécules qui bloquent le fait que la protéine tau s'agrège. Des petites molécules qui vont favoriser la dégradation et ce qu'on appelle la clairance, l'élimination de la protéine tau. Et puis également des immunothérapies, c'est-à-dire des anticorps. Hein, donc des gens qui viennent, en ce moment à Nantes, il y a des gens qui viennent tous les mois pour une perfusion d'anticorps anti-tau, hein, pour éliminer tau et empêcher qu'ils s'agrègent dans le cerveau. Et puis il y a des anti-amyloïdes. Hein, donc là, vous avez en représentation, on voit donc une synapse, hein, avec deux neurones, deux boutons cellulaires, et au milieu, tout un tas de petites fibrilles amyloïdes. Hein. Et donc les anti-amyloïdes, eh bien, on peut les. Je sais pas s'il y a une petite flèche là. Je suis jamais très douée avec les flèches, moi. Il y a ou il n'y a pas? Ouais. Je suis désolée, je suis nulle en flèche, moi. C'est le truc rouge. Ouais. Et donc, la cascade amyloïde, on peut agir là, sur les bêta-sécrétases, par exemple. On peut agir sur les gamma-sécrétases. On peut agir sur aller récupérer les protofibrilles, aller récupérer les fibrilles. Donc en fait, il y a plein de voies d'action pour tenter de diminuer cette production d'amyloïdes. Et donc, par exemple, on a une étude qui débute tout juste cette année dans le monde, là, en phase 3, qui est une étude de modulateur des gamma-sécrétases. Hein, donc les gamma-sécrétases, je vous remontre, les gamma-sécrétases, donc c'est ici. Donc c'est cette enzyme qui coupe ici et qui va donner le peptide amyloïde. Donc de moduler cette enzyme, on espère pouvoir diminuer la production d'amyloïdes. Et puis, bien sûr, il y a les immunothérapies. Hein, je vous dis, il y a des gens qui viennent pour des antitaux et d'autres qui viennent dans le service depuis maintenant plusieurs années pour des anti-amyloïdes. Alors celui qui a fait beaucoup parler de lui cet été, c'est le lecanemab du laboratoire Eisai. Donc ce lecanemab, Leqembi, il a été accepté par la FDA, donc l'instance des États-Unis, pour qu'il puisse sortir dans les pharmacies là-bas. Il a été cet été, au grand désarroi de l'ensemble de la communauté qui s'intéresse à la maladie d'Alzheimer, refusé par l'Agence européenne du médicament. On apprend qu'il a été accepté par les Anglais, qui, après le Brexit, ne sont plus européens, donc ont fait ce qu'ils voulaient dans leur pays. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'acceptation par l'EMA de la possibilité d'obtenir ce produit en France, donc en Europe déjà et en France après, mais donc, a priori, sous réserve sous couvert des gens qui m'écoutent dans la salle et qui sont plus avisés que moi sur le sujet, on attendrait un nouvel avis sur la fin de l'année, en espérant que peut-être il y ait une décision différente. Un autre anticorps anti-amyloïde, eh ben c'est la diapositive d'après. Et donc, on a un autre anticorps anti-amyloïde du laboratoire Lilly, celui-là, qui n'a pas été essayé en France, parce que la France était trop tard dans la course, donc et pour plein d'autres raisons, qui aussi vient d'être accepté par la FDA, et donc est en cours de soumission aussi auprès de l'Agence européenne du médicament. Alors, pourquoi ils ont été refusés donc, ces médicaments? En faisant un peu, on va dire, simplifié, hein, en gros, ils réduisent de 30% l'évolution de la maladie. Donc on ne va pas mieux, mais on réduit significativement, sur tous les critères, l'évolution de la maladie. Donc un vrai beau résultat, on va dire, hein, qui n'est pas complet, hein, on ne va pas mieux, on ne guérit pas la maladie, mais on la ralentit suffisamment pour que vraiment ça se voit. Hein. Et en fait, là, c'est une IRM d'une dame de Nantes, qui a bénéficié d'un anticorps anti-amyloïde. Et comme vous pouvez le voir, cette dame, donc en janvier d'une certaine année, elle a fait ce qu'on appelle un œdème. Ouais. Elle a fait un œdème qui était lié au fait que l'anticorps, il y avait beaucoup d'amyloïde dans son cerveau, et l'anticorps, quand il va se fixer sur l'amyloïde, le cerveau, il se défend d'une certaine manière, il fait une sorte de réaction inflammatoire, une sorte d'œdème. Et cet œdème, comme vous pouvez le voir pour cette dame, il s'est tout à fait résolu, et quelques mois plus tard, elle n'avait plus du tout d'œdème, et on sait en plus que non seulement elle n'avait plus d'œdème, elle n'avait plus d'amyloïde à l'endroit de l'œdème. Alors il y a ces problèmes d'œdème qui, en général, sont résolutifs et rarement symptomatiques, c'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a de l'œdème parce qu'on le voit sur l'IRM, et les gens ressentent la plupart du temps rien. Et plus ennuyeux, c'est que parfois, il y a des hémorragies. On peut faire des micro-hémorragies ou des macro-hémorragies. Et c'est sur cet événement indésirable, qui potentiellement peut être grave, que l'agence a considéré que la balance bénéfice-risque était encore un petit peu limite du fait de la possible survenue de ces effets. Alors après, on ne va pas discuter là de cette décision, mais le débat, en fait, hein, c'est vu l'importance de la maladie, hein, et je pense que dans la communauté médicale, c'est assez partagé, hein, dans les gens qui s'intéressent à cette maladie et qui travaillent auprès des patients et dans le cadre de la recherche, voilà, c'est assez partagé, hein, sur quel risque on est prêt à prendre, et après, c'est aussi quelquefois un risque, une prise de décision tout à fait personnel. Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque pour voir ralentir la progression de cette maladie? Donc, on attend la suite des décisions des instances européennes dans un premier temps. Et puis, parce que du coup, le concept est en train de vraiment s'affiner sur les types d'anticorps, on attend à venir d'un autre laboratoire une étude qui devrait débuter l'année prochaine, auquel on espère bien que la France participe et que Nantes participe. Un anticorps encore plus sécure, on va dire, avec on l'espère, quasiment pas ou plus, ou peu, pardon, d'effets indésirables. Donc, on n'est pas, on n'y est pas. Hein. L'étude de phase 2, hein, je vous expliquais, 1, 2, 3. L'étude de phase 2 a été très prometteuse, avec très, très, très peu d'effets indésirables. Et donc, partir sur une phase 3 avec beaucoup plus de patients. Et là, parfois, bah, on a des déceptions entre la phase 2 et la phase 3. Hein. C'est arrivé avec plein de produits. On était très, très emballés avec la 2. Et puis, bah, la 3, hélas, on met beaucoup plus de monde. Et là, on a des effets qui surviennent qu'on n'avait pas vus dans la phase 2. Donc, on se dit que vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec l'aducanumab, dans un premier temps, dont on vous a parlé il y a quelques années, qui a été un des premiers à montrer qu'il se passait quelque chose quand on perfusait des anti-amyloïdes, le lecanemab, le donanemab, et puis d'autres encore, hein, que je ne cite pas, qui sont en cours de développement et qui vont arriver. Donc, on a vraiment beaucoup d'espoir pour le fait que, en tout cas, moi, j'espère avant ma retraite, hein, d'accord, hein, pour ma propre maladie d'Alzheimer, j'ai bon espoir de voir arriver un anticorps anti-amyloïde ou un autre produit avec une efficacité vraiment, vraiment... Alors, simplement pour... voilà, c'est pas de la publicité, parce que, bien entendu, vous comprenez bien que tous les critères sont bien stricts, mais les études qui sont en cours, non pas en cours, parce qu'en cours, on en a beaucoup, mais en cours d'inclusion, c'est-à-dire celles où on est en train de sélectionner des patients pour débuter ces études, eh bien, on a une étude qui est justement sur le côté un petit peu microglie, maison des neurones. On a un inhibiteur des phosphodiestérases, donc un anti-inflammatoire. On a un modulateur des gamma sécrétases, justement, hein, pour essayer d'empêcher la production de peptides amyloïdes. Et puis, on a également, plus anecdotique, mais toujours intéressant à essayer, un sachet de poudre de Nestlé pour essayer de voir si ça améliore la plasticité synaptique. Et puis, pour finir, je dirais un mot de prévention, parce qu'il y a eu un très bel article français qui est paru cette année sur vraiment l'efficacité de tout un tas de mesures hygiéno-diététiques pour la survenue, pour différer le début des troubles cognitifs. Donc, ça ne permet pas d'empêcher la survenue, mais ça diffère. Donc, si on gagne quelques années, bah, c'est toujours ça de prix. Et donc, cette étude, en quelques mots, c'est une étude donc, qui avait un score, hein, qui s'appelle LIBRA, qui est une sorte de score de risque de façon de vivre, on va dire, hein. Alors, je l'ai appelé score du risque du style de vie pour la santé du cerveau, en essayant de traduire un petit peu. Et en fait, cette étude, donc, vous voyez, c'est une cohorte de plus de 5000 personnes, des gens qui ont été suivis pendant 17 ans. Donc, quand ils ont été inclus, ils n'avaient aucun trouble cognitif. On a regardé comment ils évoluaient. Et surtout, on a regardé au moment où ils étaient inclus, quel était leur fameux score de risque de façon de vivre, on va dire. Et donc, on calculait ce score à l'inclusion, donc c'est 12 facteurs modifiables, je vais revenir dessus. Et puis ensuite, ils ont fait des corrélations entre quel était le score du départ et comment ils ont évolué et quels étaient les liens entre leur façon de vivre et puis la survenue d'une pathologie cognitive. Donc les 12 facteurs de ce score, vous voyez, c'est toujours pas la même chose, on parle toujours de la même chose, mais c'est intéressant de voir que ça marche, quoi. L'activité physique régulière, manger sainement, c'est valable pour le cœur aussi, hein, la stimulation cognitive, limiter la consommation d'alcool, hein, ça on n'en parle pas toujours, hein, mais l'alcool, toxicité directe, toxique sur les neurones, donc vraiment important de diminuer au maximum. Le tabagisme actif, surveiller son cœur, lutter contre le diabète, surveiller le cholestérol, surveiller son poids, bien, bien, bien traiter son hypertension artérielle, hein, et surveiller sa tension tout court. Lutter contre l'insuffisance rénale et traiter les symptômes dépressifs. Donc tout ça, ça paraît assez évident et bien vertueux, mais ça marche. Hein. Et c'est-à-dire qu'ils ont vraiment montré que vous voyez... Alors, ils ont aussi pris en compte le facteur génétique. Alors juste en un mot, le facteur génétique apolipoprotéine E, 4. Hein. C'est que c'est le plus gros facteur de risque. Hein, donc, ce n'est pas une mutation qui donne la maladie, mais c'est un facteur de risque qui favorise la survenue plus précoce d'une maladie d'Alzheimer. Et ce facteur de risque, quand on est apolipoprotéine, on est epsilon 4, pardon, pour l'allèle de l'apolipoprotéine E, on a un risque relatif qui est pas loin de 7, 9, presque 10 d'augmentation quand on est epsilon 4, epsilon 4, et 3, 4 quand on est juste une fois epsilon 4 ou epsilon 3, epsilon 2, etc. Donc, un vrai facteur de risque de survenue plus précoce de la maladie. Donc, ils sont aussi corrélés à ça. Et vous voyez que, on va s'intéresser juste à celle de gauche. Quand on a, donc ici, là, c'est quand on a un très gros score à la baseline, donc au départ, et qu'on fait tout mal, en gros. Hein, qu'on picole, qu'on ne surveille pas sa tension, etc., etc. Et là, vous voyez, c'est ceux qui ont, en bleu, qui ont un faible score. Et après, donc là, on voit faible score, pas de facteur de risque génétique, haut score, facteur de risque génétique. Donc, on voit la différence qui est très importante. Mais si on compare, et c'est ça qui est intéressant, parce que la génétique, on savait qu'il y avait des facteurs génétiques qui faisaient qu'on n'était pas tous égaux. Mais si on compare uniquement les gens qui sont porteurs de la mutation et les gens qui sont porteurs de la mutation, mais ceux qui ont un faible score Libra et ceux qui ont un haut score Libra, on voit clairement qu'il y a une différence et qu'elle persiste au long des années. Donc, c'est une très, très belle étude, super bien menée, qui montre que vraiment, ça vaut la peine de prendre soin de soi et que ça retarde clairement la survenue d'une maladie neurodégénérative. Alors, en conclusion, je dirais que les sports actuels, eh bien, il y en a. Alors, je n'ai pas abordé ça parce que je pense que Laura en parle, je pense, un peu plus, mais je ne veux pas dire, parce que parfois on dit, on va en parler après, mais en fait, personne n'en parle après. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que vous avez compris, il y a plein de pistes et qu'il est probable que finalement, donc il y a bien sûr la prévention, on vient d'en parler, toutes les voies d'action dont je vous ai parlé, mais aussi le fait qu'on puisse associer des thérapeutiques. Hein, vous êtes pas sans savoir qu'en cancérologie, on ne vous donne pas une chimiothérapie, mais un cocktail de chimiothérapie. Si on fait l'analogie avec le VIH, vous n'avez pas une thérapie, mais c'était la trithérapie. Maintenant, c'est bien plus que les trithérapies. Et donc, on peut tout à fait imaginer que là, on n'avance pas à pas avec une molécule par une molécule, mais que l'avenir, ce sera peut-être d'empêcher avec un modulateur des gamma-sécrétases la production de bêta-amyloïdes. Et puis, quand il y en a quand même un peu de produit, qu'un anticorps anti-amyloïde aille le récupérer, ou un antitaux, etc., etc. Donc, il y a toutes ces données qui sont vraiment beaucoup source de beaucoup d'espoir pour l'avenir, avec là, plein de molécules en développement. Et puis, je terminerai avec mon deuxième point que j'ai passé pour passer direct au troisième, mais c'est la temporalité. Et c'est ça dont je n'ai pas beaucoup parlé là, mais c'est que, très clairement, toutes les études qui sont actuellement en cours à Nantes, les quatre pour lesquelles on inclut en ce moment, c'est que des études pour des gens qui débutent très, très précocement la maladie. Et on peut imaginer que cette temporalité, le fait d'intervenir vraiment à un stade extrêmement débutant, voire même, probablement pour l'avenir, avant même la survenue de symptômes, mais bon, on n'y est pas encore complètement, mais on s'y dirige, c'est vraiment capital dans les données qui laissent de l'espoir. Je vous remercie de votre attention.